Art sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous. Le 30 septembre, l'Église fête Saint Jérôme. Père de l'Église latine, avec Ambroise, Augustin et Grégoire, Jérôme est un des piliers de l'Église. Né au IVe siècle, il est né en 347 et mort en 420, il est contemporain des saints Ambroise de Milan et Augustin d'Hippone. Mais il est surtout connu pour avoir traduit la Bible du grec au latin. C'est un tableau du peintre Michelangelo Merisi, autrement dit Caravage, qui va nous permettre de mieux connaître Saint Jérôme grâce à mon invité Anne-Marie Aitze. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Marie-Madeleine, bonjour les auditeurs.
Alors Caravage est un peintre qui est familier dans cette émission sur les arts sacrés. Son talent nous a transmis des œuvres puissantes, à la fois symboliques mais aussi ô combien réalistes. Telle cette œuvre de la galerie Borghese à Rome, datée de 1605, Saint Jérôme écrivant, que vous pouvez retrouver sur internet et aussi en podcast sur le site de Radio Présence Cahors, suite à cette émission. Alors Anne-Marie Aitze, vous avez choisi ce tableau de Caravage qui montre le futur Saint Jérôme, bien qu'il soit déjà auréolé, écrivant à sa table avec une plume d'oie ou un calame, nous allons voir, et entouré de gros livres, et il est captivé par sa lecture.
Saint Jérôme, c'est un géant des Écritures. Hein. C'est pas pour rien que c'est un père de l'Église et que c'est aussi un docteur de l'Église.
Oui, en préparant cette émission, vous avez même parlé de monument.
C'est un monument, je crois, oui. Oui, parce que ce sera très difficile de tout concentrer sur 12 minutes si on veut parler de Saint Jérôme. Hein. Et dans le tableau de Caravage, bon, il est représenté de manière assez traditionnelle, c'est-à-dire qu'on le représente toujours un peu comme une espèce d'ermite, parce qu'il a écrit dans les grottes de Bethléem, et parce que pendant un certain moment de sa vie, il était dans le désert, près d'Antioche,
oui,
en Syrie.
Oui, mais quand il était dans le désert, il était jeune.
Il était jeune, donc ce n'est qu'un moment de sa vie.
Oui.
Je pense que bon, c'est un peu une interprétation... On le présente là comme un vieillard décharné. Il a un crâne à côté de lui.
Oui, il est vanité.
Voilà, il est tout recouvert, presque à moitié nu. On voit son torse et il est recouvert d'une grande toge rouge, avec en effet des livres, de grands livres, qu'il feuillette. Il est concentré sur ses livres. On voit les rides du front, parce que c'est un vieillard un peu. Il a une grande barbe blanche. Il a un crâne dégarni et toute la lumière est sur lui, hein, en particulier sur son visage, sur également le crâne de mort. Il a là il écrit, il est en train d'écrire, il s'apprête à écrire, il tient en effet un calame ou une plume à la main. Et donc c'est une vision traditionnelle un petit peu de Saint Jérôme.
Oui.
Alors qu'il devait être plutôt en moine et habillé comme les gens de son époque. Parce qu'en fait...
Oui, de bure.
De bure, voilà, c'est
oui,
ça.
Hein. Alors là, il a ce qu'on appelle le manteau rouge de cardinal.
Oui.
On le représente souvent en cardinal,
on
avec le chapeau de cardinal.
En cardinal, oui.
Mais... il n'était pas cardinal.
Non, absolument pas, parce que les cardinaux, c'était beaucoup plus tard.
Oui, c'était au XIIIe siècle qu'ont été créés les cardinaux. Donc, c'est parce qu'il a travaillé avec le pape Damase.
Exactement, c'est parce qu'il était son secrétaire. En fait, bon, Jérôme, il est né, je pense, en Croatie.
Oui, à peu près. Croatie-Slovénie.
Croatie-Slovénie, c'est par là.
À Stridon.
Stridon,
c'est pour ça qu'on dit
Jérôme de Stridon. Voilà. Il est parti assez jeune à Rome, où il a fait de très bonnes études. Et il a étudié la rhétorique, les œuvres classiques. Il était très, très attaché à Cicéron,
aux
œuvres classiques.
Aux antiques, oui.
Aux antiques. Et donc, et c'est après ses études qu'il a été un peu tenté par cette vie un peu de érémitique, est allé à Antioche.
Oui, et puis il voulait apprendre l'hébreu.
Il voulait apprendre l'hébreu, exactement, le grec. Alors, il était trilingue, hein. Il a appris évidemment le latin, bien sûr, la langue d'origine, mais le grec également, l'hébreu. Hein.
Oui, parce qu'il voulait se rapprocher des textes primitifs.
C'est en cela qu'il est original, parce qu'en fait, dans sa traduction de la Bible, il s'est beaucoup servi des textes hébreux. Mmh. Alors qu'il a traduit en fait ce qu'on appelle la Septante, c'est-à-dire la Bible grecque, qui avait été traduite à Alexandrie par des sept sages, dont on l'appelait la Septante. Mais lui, il a pris les trois versions, c'est-à-dire à la fois les textes grecs, les textes latins et les textes hébraïques.
Voilà.
Il s'est beaucoup documenté. Ensuite, c'est la méthode de l'exégèse, en fait, qu'il a créée pratiquement, puisqu'il y avait les textes, il part des textes, mais aussi, il a parlé aussi du contexte historique, du contexte géographique. Il s'est inculturé, il a vécu en Palestine, c'est pendant à Bethléem qu'il a traduit la Bible.
Oui, hein? Et il est mort.
Il est mort à Bethléem, et il est resté 30 ans. Il a rencontré du monde, il a visité les lieux saints, etc. Et en même temps, après, il a donné un sens. Il a cherché le sens spirituel et le sens allégorique.
Mmh. Oui.
C'est en cela que c'est d'ailleurs le patron des traducteurs et le patron des
bibliothécaires.
Des bibliothécaires et de tout ce qui est un petit peu intellectuel au niveau de la lecture, de la traduction, de l'interprétation et de la recherche. Oui.
Oui. Donc, la Bible en latin s'appelle la Vulgate.
La Vulgate, c'est-à-dire la répandue.
Voilà. Ouais.
Et il faut savoir que c'est
la langue vulgaire.
Voilà, en langue vulgaire, oui.
C'est-à-dire courante.
Courante, oui.
On dirait que maintenant l'anglais, c'est la langue courante et la langue vulgaire, disons. Hein, mais vulgaire, pas dans le bon sens.
Dans le sens, oui, au sens...
Vulgus, le peuple.
Voilà. Hein,
voilà, populaire.
Populaire, que tout le monde connaît, quoi. Tout le monde connaît ou accessible à tout le monde. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la Bible de l'Église catholique. Hein, elle a été consacrée par le Concile de Trente comme la traduction officielle.
C'est ça.
Bon, et on y est toujours dessus. Alors, avec peut-être des modifications récentes, tout ça, mais dans l'ensemble, on est dessus sur la traduction de la Bible de Saint Jérôme. Mais il a fait des tas de choses.
Oui, alors à part la Bible, il a fait d'autres choses parce que il y a des recherches intéressantes, en fait, des écrits intéressants.
Il a fait des commentaires sur les psaumes.
Sur les psaumes.
Et il a fait énormément. Enfin, c'est de l'époque aussi. Il faut savoir qu'on est en 347. Enfin, il est mort en 420 ou 410, je crois.
420.
Donc, on
430.
Il ne faut pas oublier que c'est vers en 300 que le christianisme est devenu la religion officielle.
Oui, oui.
Donc, on est en pleine époque de bataille contre les hérésies, etc., d'interprétations diverses, qui fait que le dogme n'est pas encore fixé.
Et puis, il a travaillé aussi, enfin, il a prôné la vie consacrée des femmes.
Voilà, et ça, c'est original. C'est original. Alors, finalement, pour dire que c'est pour ça que cette vision-là de Saint Jérôme, toujours ermite dans sa grotte, etc., c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il a été entouré de beaucoup de femmes. Il a enseigné les femmes à un certain moment. Après, quand il a été à Rome, il y a des dames de la noblesse romaine, Paula et Eustéchius, sa fille, qui sont devenues ses disciples, qui l'ont suivi en Terre Sainte, qui ont fondé des couvents.
Un couvent
de femmes. Lui, il avait fondé le couvent d'hommes.
Oui.
Donc, voilà. Donc, en fait, non, il était quand même pas... C'est pas quelqu'un qui était isolé. Il était entouré. Et puis ensuite, il a même fait un traité d'éducation.
C'est ça. C'est très intéressant,
d'éducation,
ça.
Pour les filles.
Oui, oui. Parce que Paula avait une petite fille.
Voilà, c'est Eustochius. Hein?
Voilà.
Eustachius, je crois, oui.
Et ça c'est très intéressant. C'est à la manière de François Dolto.
Tout à fait.
Du quatrième siècle.
C'est très moderne.
Ah,
c'est très moderne, puisqu'il dit qu'il faut encourager l'enfant, il faut l'apprendre de façon ludique, etc. Non, c'est... Donc, c'est pour ça. C'était un homme certainement austère, mais enfin, c'est peut-être... il était, c'est sûr, pour une vie sobre, il s'est mis à dos tout le clergé romain parce qu'il leur a évidemment reproché leur vie un petit peu laxiste et dissolue. Mais c'est pour ça qu'il est chassé de Rome après la mort du pape et qu'il part en Terre Sainte et qu'il part s'installer après à Bethléem, où il a vécu dans les grottes sous la basilique de la Nativité.
C'est ça.
Et il y a encore son cénotaphe là, dans une grotte de Saint Jérôme. Ensuite, ses reliques seront transférées, je crois, à Rome, à Sainte-Marie-Majeure. Et alors, quand il a fait ce, si je reviens au tableau de Caravage, bon, il a fait ça vers 1605. Alors, il est à l'apogée. C'est un tableau magnifique, hein, au niveau de l'équilibre. Entre, bon, c'est un chef-d'œuvre du clair-obscur, hein, du ce
oui,
fameux clair-obscur.
Le fond est noir.
Est noir. Toute la lumière est devant, sur les livres, sur le crâne et sur le sein. Bon, il y a du rouge, après il y a des taches blanches. Donc il y a un équilibre incroyable, il y a une grande sobriété. Donc c'est vraiment. Là, c'est la maîtrise parfaite du Caravage. Et en même temps, alors il est à l'apogée de ça. Disons, de son art, et en même temps, il ne fait que des bêtises. Il est aussi, il est ici dans la provocation,
oui, c'est là où il fait devait avoir un drôle de caractère.
Oui, la mort de la Vierge. Il fallait absolument, je pense, qu'il ait les gens contre lui. C'était pas possible. Oui. Alors, il y avait, heureusement qu'il avait des protecteurs. Ils étaient toujours en train d'essayer d'arranger les choses. Mais en attendant, c'est à ce moment-là qu'il a eu les bagarres, qu'il a été suspecté de crime, et même il y a eu un meurtre, je crois qu'il a été, qu'il a été emprisonné, enfin, et surtout banni de Rome. Après, il est banni de Rome à ce moment-là.
Oui, parce qu'il tenait à ses idées, il les justifiait et il allait jusqu'au bout.
Oui, voilà. Il est banni de Rome en 1606, donc à peu près dans ce... Et il meurt en 1610, sans être jamais revenu à Rome.
Caravage, Saint-Jérôme, en 410,
c'est pas pareil.
Bon, mais juste pour revenir sur l'éducation, juste une phrase pour la petite, donc, pour laquelle il donnait des conseils. Qu'elle ait des compagnes d'études qu'elle puisse envier, dont l'éloge la pique. Il ne faut pas la gronder si elle est un peu lente, mais stimuler son esprit par des compliments. Qu'elle trouve de la joie dans les succès et dans l'échec de la peine. Voilà, hein, et qu'on lui fasse des lettres, soit de buis, soit d'ivoire, et qu'on les désigne par leur nom, qu'elle s'en amuse, qu'ainsi son amusement même lui soit un enseignement.
Ah oui, mais c'est incroyablement moderne.
C'est formidable.
C'est incroyablement moderne.
D'avoir ça en 400.
C'est incroyablement moderne. Mais Saint Jérôme, surtout, bon, il a aimé la parole de Dieu. Et il a dit, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ.
Voilà.
Et je voulais dire aussi qu'à Toulouse, rue d'Alsace, il y a l'église Saint Jérôme qui mérite d'être vue. Et c'est là où j'ai été baptisée.
Ah, très bien.
Voilà, petite note personnelle que je me permets.
Nous allons conclure là-dessus. Merci beaucoup Anne-Marie pour cet échange riche. Merci Imanol pour nous avoir accompagnés à la technique. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre toujours grande fidélité. Donc la semaine prochaine, nous serons toujours en compagnie d'Anne-Marie Aitze pour parler d'un autre monument de l'église, Saint-François d'Assise. Le Poverello. À la semaine prochaine.
C'était Art Sacré, Art Sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Reille.